Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Allez, c'est parti pour nos deux heures quotidiennes de rendez-vous avec votre épargne, avec vos placements, avec votre patrimoine. Et on commence par une virée sur les marchés pour regarder un petit peu ce qui se passe sur cet indice CAC 40 qui finalement nous a gratifié d'un joli rebond. Est-ce qu'il se poursuit ce matin, Antoine ?
Bah non, du coup, on prend quelques profits. On est en repli, moins 0,46%. On reste au-dessus des 6000 points quand même, c'est important, 6011 points. Mais bon, il y avait quelques petits excès aussi à corriger, alors que hier, c'était une séance de correction des excès baissiers. Donc, vous voyez que les choses vont très, très vite sur les marchés. Il y a encore quelques jours, on en était à se lamenter sur le fait qu'on était au plus bas de l'année et que les marchés lâchaient toute prise. Bah là, on revient du côté des 6000 points, au contact des 6000 points pour le CAC 40. On est en hausse, on est en baisse, pardon, sur le reste des marchés européens avec du moins 0,52 pour l'Eurostox 50, le DAX à Francfort qui perd 0,44%. Je disais hausse parce qu'il y a encore eu des progressions spectaculaires ce matin en Asie, notamment Hong Kong hein, qui épousait le mouvement général avec un petit peu de retard, mais le Hang Seng a gagné 5,7%. Donc il y a quand même un relatif apaisement sur les marchés. Maintenant, les sources d'inquiétude hein, qui prévalaient sur l'ensemble des marchés ces derniers jours, elles restent entières, à savoir l'attitude future des banques centrales face à l'inflation, face aux perspectives de récession. On a entendu quand même Jérôme Powell il y a quelques semaines dire, moi, mes deux principaux indicateurs pour éventuellement infléchir la politique monétaire et la dynamique de politique actuelle, c'est s'il se passe quelque chose au niveau de l'inflation et qu'elle commence véritablement à plafonner, preuve à l'appui, et que le marché de l'emploi s'affaiblisse. Alors ça, c'est un indicateur intéressant qu'on va regarder cet après-midi. Il y aura l'enquête ADP emploi privé américaine avant le rapport américain sur l'emploi qui sera publié vendredi. Et globalement, là, on va savoir si, oui ou non, il y a des signes d'infléchissement hein, de la santé du marché de l'emploi qui pourraient peut-être donner l'occasion à la Fed de fixer le graal du moment, c'est-à-dire le point pivot, le point à partir duquel la Fed va doucement commencer à préparer les esprits à un ralentissement de son action en estimant que le travail contre l'inflation a été fait. Donc vous voyez, c'est des mécaniques extrêmement compliquées. Sur le marché, ça se traduit par beaucoup de volatilité. C'est vrai qu'on a eu une très forte baisse suivie d'une très forte hausse hier, hein, qui s'est également infusée du côté des marchés américains. Enfin voilà, au milieu de tout ça, on essaie de conserver un petit peu d'équilibre autour des 6000 points pour le CAC 40. Attention, autre source d'instabilité pour les marchés, elle pourrait venir de Vienne aujourd'hui, où il y a la réunion de l'OPEP+, qui devrait annoncer une forte réduction de ses quotas de production, de manière à faire remonter les cours du brut du côté peut-être des 95-100 $. Et ça commence déjà à infuser sur le marché du Brent, où le baril est du côté des 92. On est à 91-77, on était un petit peu plus loin, un petit peu plus tôt ce matin. Alors, les valeurs taux sont en baisse ce matin à Paris, notamment l'immobilier commercial, Unibail, Rodamco, Westfield, moins 4,2%, 42,95 €. Les valeurs bancaires, si elles s'étaient bien reprises, vous savez, il y a eu toutes ces rumeurs de mauvaise, très mauvaise santé financière du Crédit Suisse et de la Deutsche Bank qui avaient provoqué une forte baisse du secteur bancaire. Là, les choses semblent aller un petit peu mieux. Il y a eu une très forte hausse hier. Et donc, un rééquilibrage ce matin. Crédit Agricole, moins 2,9. On est à 8,55 €. BNP Paribas, moins 2,8 à 44,20 €. Et Société Générale, moins 2,52 € à 21,05 €. À la hausse, on retrouve quelques valeurs alors plutôt défensives, comme Publicis qui gagne 6% à 52,84 €, Eurofin Scientifique plus 0,4 à 65,32 €, mais on trouve aussi des valeurs techno, des valeurs de croissance, ST Micro plus 1,5 à 34,99 €, Worldline plus 0,9 à 42,67 €, puis EssilorLuxottica, Syntercal et gagne 1,5% à 154,40 €. Le CAC donc moins 0,43%, reste au-dessus des 6000 points à 6013 €, l'euro 99 cents 44 face au billet vert. Cédric.
Antoine Larigauderie, merci Antoine. Le marché parisien qu'on suit bien évidemment et on verra ce que nos traders pensent de ces fameux 6000 points. On leur donne rendez-vous à 10h30. D'ici là, l'info éco avec Stéphanie Collot.
BFM Business, l'info éco, Stéphanie Collot.
Et à la une, les énergéticiens s'engagent à protéger les entreprises face à la hausse des prix de l'énergie. Ils ont signé ce matin une charte en ce sens à Bercy, après avoir été accusés par Bruno Le Maire de gonfler les prix. On écoute le ministre de l'Économie.
Nous nous réjouissons donc avec mes partenaires du gouvernement que les principaux fournisseurs aient tous accepté aujourd'hui de signer une charte avec des engagements forts. Je remercie donc Total, EDF, Engie, le syndicat des entreprises locales d'énergie, les associations, les autres producteurs qui tous ont accepté de signer cette charte sur laquelle nous travaillons depuis maintenant 10 jours. Et cette charte comporte des engagements forts qui doivent rassurer nos entrepreneurs.
Les réserves de gaz françaises sont pleines, annonce de la SCRE ce matin qui précise que des situations de tension restent possibles cet hiver. La Commission de régulation de l'énergie appelle à un effort collectif massif pour réduire nos consommations. Toujours à propos d'énergie, une coupe franche dans la production de pétrole, c'est ce que l'OPEP+ devrait décider aujourd'hui lors d'une réunion à Vienne. Les membres pourraient acter une baisse drastique des quotas jusqu'à 2 millions de barils jour pour soutenir les cours face au ralentissement de la demande. En France, la production industrielle rebondit de 2,4% en août, après un recul de 1,6% en juillet. C'est une surprise, puisqu'on s'attendait à une stagnation. C'est le coup d'envoi aujourd'hui de la concertation sur la réforme des retraites. Olivier Dussopt, le ministre du Travail, reçoit l'ensemble des partenaires sociaux en début d'après-midi. Tous les syndicats ont accepté de s'y rendre, mais ils ont posé leurs conditions. Pas question de reculer l'âge de départ à la retraite. Pour ce qui est de l'assurance chômage, l'Assemblée a voté la mesure clé de la réforme hier, celle de la modulation de la durée d'indemnisation en fonction de la conjoncture. Adoption en première lecture, gauche et RN ont voté contre. Dans l'actualité, entreprise Bouygues a finalisé l'acquisition d'Equans pour 6,5 milliards d'euros. C'est le plus gros rachat de son histoire. Bouygues entend désormais devenir un leader mondial des services multitechniques. Olivier Roussa, le directeur général de Bouygues, sera l'invité d'Edwige Chevrillon ce soir à 19h30 sur BFM Business. Et puis, les banquiers du groupe Casino s'impatientent. Selon les informations de BFM Business, ils demandent une accélération du désendettement du groupe. Certains plaident pour la vente des activités en Amérique latine. Cédric.
Merci beaucoup Stéphanie. Stéphanie Collot, que l'on retrouve chaque heure dans BFM Patrimoine pour suivre cette information économique. Le marché parisien qui, pour le moment, est en baisse de 0,56%. On préserve les 6000 points, mais pour 6 petits points. On va voir ce qui se passe sur ce seuil dans les heures qui viennent.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zépipo.
Sébastien Lemonnier nous attend chez Inocap Gestion. Bonjour Sébastien.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous ce matin pour jeter un œil sur Verallia. On rappelle le périmètre du groupe avant de rentrer dans le détail de ce qui vous intéresse.
Alors avec plaisir, donc la pépite de la semaine, ce qui n'est pas une recommandation d'achat, mais un exemple parmi nos convictions d'investissement, eh bien le français Verallia, qui constitue depuis plusieurs trimestres, notamment au sein de notre fonds Quadrige Europe Midcap, l'une de nos principales pondérations au portefeuille et sur laquelle notre prix de revient moyen d'achat est autour de 24 euros par action. Alors c'est un groupe qui a été fondé en 1827, qui a longtemps été sous le giron industriel du groupe Saint-Gobain et qui a été introduit en bourse en octobre 2019 par le placement du fonds Apollo au prix de 27 euros par action, lequel est désormais totalement sorti du titre. Verallia est un leader européen et troisième producteur mondial de l'emballage en verre pour les boissons telles que le vin, les spiritueux, le champagne ou encore la bière. Avec 32 usines verrières, 4 usines de décor et 900 de traitement du calcin dans 11 pays, il produit chaque année plus de 16 milliards de bouteilles pour fournir une base fragmentée de clients qui compte environ 10 000 entreprises, à la fois des producteurs familiaux locaux et des grandes marques internationales. En dépit d'un parcours boursier plutôt décevant depuis son introduction en bourse, Verallia est parvenu à atteindre les objectifs qu'il s'était fixés, à la fois en termes de croissance disciplinée de ses activités et surtout en termes d'amélioration de son excellence opérationnelle, avec une marge d'EBITDA qui a progressé de 24,8% en 2018 jusqu'à 27,5% en 2021. Acteur clé au sein de l'industrie verrière, Verallia investit en moyenne chaque année jusqu'à 10% de son chiffre d'affaires, à la fois dans l'amélioration de la productivité de son outil de production, mais également, et pour se différencier de ses concurrents, dans l'accélération de la transition vers des emballages durables en réduisant ses émissions de CO2 bien au-delà de ses concurrents. Alors que la nature de ces activités est plutôt résiliente au travers des cycles économiques, du fait du petit ticket de consommation qu'ils représentent pour les clients finaux, et que la structure compétitive de son industrie est à la fois oligopolistique et disciplinée en termes d'ajout de capacité, Verallia fait partie des sociétés qui disposent, selon nous, d'un solide pricing power. Bien qu'il était historiquement moins efficient opérationnellement que son concurrent espagnol Vidrala, du fait d'un dispositif industriel notamment plus fragmenté pour être plus proche de ses clients, nous estimons désormais que dans le contexte actuel, le groupe bénéficie à la fois d'un leadership en termes de coûts et probablement, depuis la fin du premier semestre, d'un leadership en termes de compétitivité prix pour ses clients. En effet, Verallia se différencie actuellement sensiblement de la concurrence de par sa politique de couverture sur les prix d'énergie, puisqu'à fin 2021, 85% de ses coûts étaient couverts pour les 3 prochaines années. Ainsi, il est capable de faire profiter à ses clients des hausses de prix moins importantes que ses concurrents, tout en préservant totalement sa rentabilité, à contrario des autres acteurs. D'autre part, la visibilité sur l'équilibre offre-demande nous semble solide, à la fois compte tenu d'une activité qui est par nature robuste, des potentiels gains de parts de marché concrétisés dans ce contexte, et enfin, du fait de la réduction des capacités de l'industrie, notamment par la destruction d'un important outil de production de l'un de ses concurrents en Ukraine lors du déclenchement de la guerre. Par conséquent, nous estimons que la génération de flux de trésorerie libre du groupe devrait rester robuste ces prochains trimestres, alors même que la structure bilancielle nous semble en partie peu efficiente, avec un levier financier faible qui pourrait être un peu inférieur à une fois d'ici la fin de l'année. Dans ce sens, nous pensons que la société pourrait désormais mener des opportunités relutives d'allocation de son capital ces prochains mois, à la fois en termes de croissance externe, de petite ou moyenne taille, et ou en termes de rachat d'actions, puisque la valorisation du groupe nous semble attractive, avec un rendement des flux de trésorerie libre proche de 10%. Alors en conclusion, la combinaison de la qualité de ses fondamentaux avec la bonne visibilité sur la croissance, tout comme la nature solide et défensive de sa génération de flux de trésorerie, nous semble être de bons atouts dans le contexte actuel, et ce d'autant plus que nous considérons la valorisation comme attractive, notamment quand on compare le ratio de valeur d'entreprise sur résultat opérationnel qui est de seulement 8,5 fois, avec le niveau de retour sur capitaux employés du groupe, qui est sa vraie génération de création de valeur, qui est lui supérieur à 20%.
Merci beaucoup Sébastien. Sébastien Lemonnier donc, Innocap Gestion. Et puis si on regarde le consensus des analystes qui suivent cette valeur Verallia qui cote ce matin 23,42 en baisse d'un 68%, ils ont un objectif de cours moyen de 39 euros, et donc une recommandation d'achat sur ce dossier Verallia. Le marché parisien, lui, vient de casser les 6000, on est à 5995 points et on accélère un petit peu le recul, moins 0,73%.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Yvan Mamallet est en ligne avec nous depuis la Société Générale CIB. Bonjour Yvan.
Bonjour.
Merci de nous accorder ces quelques minutes pour un focus ce matin sur les perspectives économiques européennes et l'impact que ça pourrait avoir sur le choix de la Banque Centrale Européenne. On a tous en mémoire, bien évidemment, le propos d'Olli Rehn qui, il y a quelques jours, nous disait 50, 75 ou autre chose. Comment voyez-vous les choses, justement ?
Alors déjà, peut-être commencer avec l'activité. On a eu la semaine dernière les indices ISM préliminaires. On a les finons qui viennent d'être publiés. Ils sont, en fait, à la fois manufacturiers et services sont tous les deux inférieurs à 50. Troisième fois consécutive pour le secteur manufacturier, deuxième fois consécutive pour le secteur des services. Donc, ça veut dire qu'ils seront effectivement en ligne avec une récession ou au moins une croissance très faible. On a également la production industrielle. Donc, on a eu les productions industrielles en France ce matin. On aura l'Allemagne d'ici la fin de la semaine, la zone euro semaine prochaine. Et là, déjà, le troisième trimestre, les chiffres du mois de juillet avaient été très faibles. On avait une baisse de 2%, de plus de 2% sur le mois de juillet. Vraisemblablement, le mois d'août, ça sera à peu près similaire, avec une baisse aussi marquée. Et ce, en grande partie, dû à la baisse du prix du gaz, de l'électricité, qui ont forcé certaines entreprises, quelque part, à réduire la voilure. Vous ajoutez, je vais y revenir, les hausses de taux directeurs, l'inflation à 10%. Effectivement, on est dans une situation assez défavorable. Je voudrais quand même, et ça explique pourquoi la BCE augmente les taux, revenir sur un point assez important, qui est un point favorable, c'est le marché du travail. Le marché du travail reste très tendu. On a des créations d'emplois, une croissance des créations d'emplois qui est d'environ 3% par an. Des salaires, des rémunérations par tête au deuxième trimestre qui étaient de 4,5% par an. Donc quand vous ajoutez ceci, vous avez un revenu disponible qui est de l'ordre de 6%, à comparer avec les 10% d'inflation, mais qui donne un peu l'idée que la situation n'est peut-être pas aussi négative en agrégé qu'on peut le penser a priori. Donc pour nous, le sentiment, c'est que pour la BCE, tant que le marché du travail reste dynamique, tant que les salaires restent forts, la croissance des salaires reste forte, la BCE continuera d'augmenter les taux. Alors, mais effectivement, pour le mois d'octobre, on pourrait avoir 75 points de base et 50 en décembre, mais ça sera ça se joue entre 50 et 75.
Oui, mais sans être, si convaincu, j'imagine, j'espère, mais bien forcé aussi par la cadence qu'impose la Fed, sinon l'euro part à volo.
Oui, alors il y a une partie, il y a effectivement une partie de l'international qui joue avec l'euro qui se dépréciant, augmente la valeur des matières premières, etc. Mais je pense que pour c'est peut-être que ça rajoute à la rapidité du hausse de taux, mais je pense que pour la BCE, l'important c'est qu'à l'heure actuelle, les taux d'intérêt réels, donc quand on regarde les taux directeurs de la BCE par rapport à l'inflation, sont très fortement négatifs. Ce qui veut dire que quelque part la BCE court après l'inflation, elle court également après les salaires, et tant qu'on n'a pas de signaux de ralentissement du côté de l'inflation tout d'abord, mais surtout des salaires, la BCE devra continuer à augmenter très rapidement ses taux.
Merci beaucoup Yvan. Yvan Mamallet, la Société Générale CIB qui nous accompagnait ce matin. Le marché parisien, lui, baisse de 0,71%, 5995 points.
BFM Business, c'est aussi sur Internet. Sur bfmbusiness.com, suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business, toutes vos émissions en live ou en replay.
BFM Business, BFM Patrimoine, la vie IMO.
Le Club IMO qui accueille Gaël Thomas et Marie-Cœur de Roy. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Gaël Thomas pour Business IMO et Marie qui nous accompagne bien sûr tous les matins sur cette planète immobilière. Comment est-ce que vous voyez le marché en ce moment, si on fait une petite prise de pouls comme ça, le neuf, l'ancien, le taux d'usure, les crédits, les sujets manquent pas, Gaël?
Le marché de l'ancien se tient plutôt pas trop mal. Le krach immobilier, il n'est pas encore là. On regardait les statistiques des notaires en Ile-de-France, 54 000 ventes entre mai et juillet, c'était un petit peu c'est un moins 7%, mais ça tient encore. Les prix tiennent encore, plus 1,6. Je crois que le plafond, ou en tout cas le plancher, je ne sais pas s'il faut le dire, ou le plateau de 10 000 euros, grosso modo, à Paris, n'a pas été enfoncé, il tient toujours. Meilleur agent l'a montré qu'il y avait encore une stabilisation des prix, plus 0,3 en septembre. Je crois qu'on est à plus 4,6 depuis le début de l'année. Donc le marché, il tient grâce à la faiblesse des stocks. A priori, dans le neuf, c'est criant. Je crois qu'il y a une chute des ventes de près de 25% au deuxième trimestre qui est rapportée par la Fédération des promoteurs. Et au bout d'un moment, la demande, elle n'a pas faibli. La demande, elle est un peu coincée par le taux de crédit.
Ouais.
Banque de France montrait, c'était, je recherche mes chiffres, 1,72 en moyenne.
Oui, alors moi je préfère prendre les chiffres des courtiers parce qu'en réalité, on est plutôt à 2% aujourd'hui, voire
disons
un peu plus.
La Banque de France regarde très loin derrière.
Voilà, la Banque de France nous donne des data qui ont 6 mois, donc on va regarder les data actualisées. Et effectivement, on est plutôt autour de 2, voire un peu plus. D'ailleurs, c'est le courtier Vous Financez qui alertait dès hier en disant attention, on a eu un relèvement du taux d'usure à 3%. Les banques se sont engouffrées évidemment dans la brèche
pour remonter.
Leur grille de taux. Après, oui, le marché tient, c'est-à-dire que tous ceux qui ont cru qu'il allait avoir un krach pensaient aussi qu'on avait une vraie bulle. Or, on n'a pas de vraie bulle. Donc ça aussi, ça explique qu'on n'ait pas de krach. Effectivement, là, on est sur une espèce de petit palier. Alors, ce qui va se passer, mais il faut s'attendre à ce qu'il y ait toujours un délai, c'est qu'effectivement, à mesure que les taux d'intérêt vont continuer à progresser, les prix vont s'assagir pour arrêter d'augmenter, pour finir par, logiquement, baisser. Mais ça ça prend du temps. C'est-à-dire qu'il faut du temps entre la remontée réelle des taux d'intérêt et les coûts des crédits qui deviennent prohibitifs pour un certain nombre d'emprunteurs pour que les vendeurs acceptent réellement de revoir leur prix à la baisse. Et ça, ça prend 6 mois, 1 an, parfois 1 an et demi. Ça prend du temps. Donc là, on est effectivement sur cette... Alors moi, je vous avais parlé de cette fenêtre de tir. Je pense qu'on y est. C'est-à-dire, je pense que quand même, sur certaines villes, on est sur un plateau. Alors effectivement, Gaël disait qu'à Paris, on est toujours au-dessus des 10 000. Il y a d'autres réseaux, hein, Orpi, qui pensent qu'on est quand même bien en dessous des 10 000. Maintenant, on est autour de 9 006, 9 007. Ça dépend évidemment des implantations des réseaux localement. Hein. Mais je crois qu'effectivement, en gros, 10 000 euros du mètre carré, un peu plus, un peu moins, on va pas essayer de pinailler. C'est à peu près le prix parisien. Là, on va difficilement descendre plus bas, clairement. On peut réaugmenter bientôt. Et ce qui est sûr, c'est que les taux, eux, ça c'est une certitude, vont continuer à augmenter. Donc le conseil à ceux qui nous écoutent, alors pas de se précipiter, ça sert à rien de se précipiter sur un achat immobilier. Mais si vous pensez qu'il faut encore attendre, vous vous trompez. C'est-à-dire qu'il faudra trop de temps entre la remontée des taux d'intérêt et qu'il y ait une vraie baisse des prix pour avoir de nouveau cette fenêtre de tir.
C'est-à-dire que là, pour le moment, on va plutôt souffrir sur le crédit IMO.
Ouais.
Plutôt que bénéficier d'une baisse.
Ça va prendre du taux, du temps.
Les taux remontent tous les mois, donc vous allez
voir. Mais voire plus, hein, Gaël, hein, tous les mois, non, voire tous les 10 jours en ce moment. Hein.
Mais n'oublions pas qu'on a une inflation qui est à 5-6.
Oui, bien sûr aussi. Ouais.
Qu'on emprunte donc en taux réel négatif. Hein.
Mais d'où l'intérêt, c'est pour ça que je dis que la fenêtre de tir, elle est maintenant. C'est-à-dire que quand les taux auront beaucoup plus remonté, quand on n'aura plus le taux d'usure, entre guillemets, protection, même si, bon, on ne va pas refaire le sketch sur le fait qu'il empêche beaucoup de ménages d'emprunter, que ça va repartir en force là d'ici 10 jours, hein, bref. Mais quand les taux seront au même niveau, ou en tout cas corrélés réellement au niveau de l'inflation et qu'on sera plus à taux réel négatif, vous n'aurez pas forcément une baisse des prix équivalente et là, ça va faire beaucoup plus mal qu'aujourd'hui. Et donc c'est là où je rejoins Gaël, c'est qu'effectivement, cette fenêtre de tir de l'automne-hiver, elle est maintenant là, là tout de suite, je pense.
Moi, je ne suis pas convaincu qu'il y aura une baisse de prix à terme. Je ne suis vraiment pas convaincu. Une bulle, ça explose quand il y a un excès d'offres. Et
mais je pense pas qu'il y ait une bulle.
De la demande. Il y a absolument pas d'offre. On est dans une politique malthusienne, si on parle du fond.
Non mais Gaël, les prix, ils ont trop flambé dans certaines villes. Je parle pas de Paris-Lyon.
Si on enclenche la boucle prix-salaire sur l'inflation, on va rattraper là-dessus. Ça commence à arriver. Ouais. Attention, l'inflation, elle devait être transitoire. Moi, on m'avait dit que c'était fini au mois de mars. Hein. On est en quoi ? Octobre. Mm-hmm. Bon, donc.
Je pense qu'il y aura quand même une certaine correction dans certaines villes moyennes, grandes,
pas forcément.
Petites, grandes
et on va avoir des disparités de marché. On peut regarder. On a le prisme parisien. Effectivement, peut-être Corpi a plus d'agents sur le nord et l'est parisien que dans le centre et dans l'ouest. Vous regardez le marché du luxe à Paris, il flambe. Pourquoi ? Parce que les Américains et les Suisses sont revenus. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une monnaie forte. Et donc, on a des disparités de marché qui vont être énormes, qui vont être colossales.
Oui, mais Gaël, c'est pas le sujet. Enfin, ce que je veux dire, c'est que pour moi, Paris, c'est un hors sujet en fait. Il y a tout le reste, toutes ces villes. Enfin, je pense à toute ce qu'appelle Coldwell Banker l'Atlantique Riviera, mais toutes ces villes qui ont flambé, mais qui font des encore plus 10, plus 15, plus 20% parfois même là, d'après les chiffres d'Orpi. Hein, je crois pas que ça soit le niveau réel de leur prix en fait. Donc, à un moment donné, il va forcément y avoir une correction. Alors, est-ce que ça va s'effondrer encore une fois ? Je ne crois pas à une bulle. Je crois simplement qu'on va avoir une correction et qu'on va rentrer dans un truc un peu moins, un marché plus sain en fait, en phase de normalisation, on l'a dit sur les taux d'intérêt quand on dit effectivement, rendez-vous compte c'est plutôt la normalité, ce qui est en train de se passer aujourd'hui que ce qu'on a vécu ces 2-3 dernières années avec des taux à 1%, oui. C'est la normalité mais aussi la normalité du côté des prix c'est pas possible qu'on ait des prix aussi élevés dans des villes comme Nantes, comme Rennes, Perpignan,
on se donne rendez-vous dans 6 mois.
Ok.
On prend les paris.
Moi je parie à un assagissement. Je dis pas un effondrement. Attention, Gaël.
On est le 5 octobre. Okay. On verra fin mars, c'est ça ?
Ouais.
Vous vouliez nous dire un mot aussi sur le monde du bureau avec Londres et Paris, qui sont toujours les villes de cœur des investisseurs internationaux.
Ouais, il y a un classement qui est fait depuis un peu plus de 20 ans par un grand gestionnaire d'actifs immobiliers, LaSalle, pour ne pas le citer, qui donne un indice de croissance en fait des villes européennes. Donc il regarde le PIB, il regarde l'emploi, il regarde le capital humain, il regarde la richesse, il regarde la performance d'investissement, le cadre réglementaire, bref, toute une batterie de paramètres. Et bah, quand bien même nos amis britanniques traversent une petite tempête, Londres reste en tête de ce classement. Paris est deuxième, Stockholm est troisième et dans le top 20, on retrouve Lyon à une 18e place. Et surtout, depuis ce classement, dans le top 10, on a trois villes qui ont toujours été dans ce top 10. Paris, Londres, Munich. voilà, à chaque fois on voit un peu la géographie, on parle de...
Et on a envie de dire Londres malgré tout, donc parce que
Londres,
Brexit,
malgré tout.
Parce que...
Londres malgré tout, parce que ça reste un marché puissant, ça reste un stock profond, un marché très liquide, et effectivement il y a des corrections de prix, alors eux quand ils corrigent, ils corrigent, hein. Quand ça flambe, ouais. Mais quand ça corrige, ça corrige. Bon, la salle est en train de dire quand même qu'ils ont analysé une batterie de villes européennes, il y en a 57 de villes qui ont été dégradées en 2022. Mmh. Pour montrer quand même que les nouvelles, elles sont pas forcément idylliques et que les difficultés sont encore devant nous. En face, il y a toujours de l'appétit. En face, il y a toujours des investisseurs. On parlera peut-être des CPI qui ont massivement collecté. Il y a toujours de l'appétit pour l'immobilier qui reste une valeur refuge. On retrouve dans le bureau comme dans le logement un problème sur les prix. Nous, on a fait quelques petites enquêtes et on a vu que cet été, il y a entre 3 milliards et 3,5 milliards d'euros de transactions qui ont été retirées du marché parce qu'on n'a pas trouvé d'accord sur le prix. On a 5 à 6 milliards de transactions qui ne sont pas finalisées parce que, une fois de plus, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le prix, principalement sur des grosses opérations. Qu'est-ce qui bloque ? Le financement ? Qu'est-ce qui bloque ? C'est les taux d'intérêt. Quand vous avez, grosso modo, une OAT à 2,5, je crois qu'on est à 2,40, et que vous avez un taux prime des bureaux, c'est-à-dire pour les meilleurs bureaux, qui est à 2,50, vous comprenez qu'il n'y a plus de prime de risque pour l'immobilier, que les investisseurs institutionnels ont besoin de restaurer une prime de risque pour justifier leur investissement. Sinon, vous investissez avec un rendement zéro. Donc voilà, il y a quand même pas mal de... Il y a de l'appétit. Mais on sent que c'est un marché qui va être compliqué, qui va être tendu, avec des volumes qui vont être très certainement en baisse cette année à Paris.
Alors, on est à peu près par le temps, on se retrouve juste après la pause.
Pas de souci.
Allez, on marque une petite pause comme d'habitude. On file sur les marchés, on accueille Nicolas Dose et puis on continue à parler immobilier sur BFM Business, le marché parisien qui a choisi la baisse. On va voir ce qu'en disent nos traders. On a cassé les 6000 et on perd quasiment 1%.
BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Chaque jour à 10h30, vous avez rendez-vous avec deux traders sur l'antenne de BFM Business pour regarder quels sont les critères techniques, graphiques qui sous-tendent la séance du jour. Deux traders qui vous permettent donc de faire le point sur ce marché qui ce matin a un petit peu de difficulté. Pour preuve, ce CAC 40 qui est passé maintenant sous les 6000 points et on perd, disons, un petit peu plus d'1%. Gilles Santacreux est en ligne avec nous depuis boursicoté.com. Bonjour Gilles, merci d'être au rendez-vous. Comment jugez-vous la performance de cet indice qui menace donc les 6000 points qu'on espérait tenir ? Bon, petit problème de liaison manifestement avec nos traders. On va voir si on arrive à les retrouver. Puis sinon, on retrouvera la bourse un peu plus tard. Le CAC 40, en tout cas, perd 1,02%. 5977 points pour l'indice. Tendance négative que l'on a d'ailleurs un peu partout en Europe. L'Eurostock 50 perd 0,8%. Et puis si on jette un œil du côté des arbitrages en cours à la Bourse de Paris, eh bien du côté des palmarès, il y a pas mal de dégagements d'arbitrage qui s'opèrent aujourd'hui, notamment du côté des valeurs du CAC 40, avec parmi les plus fortes baisses des titres comme Unibail Rodamco, moins 4,85% à 42,69, Michelin, moins 3,47 à 23,2, ou encore Stellantis qui perd 3,1% à 12,52 euros. Au total, on a une douzaine de titres en baisse de plus de 2%. Et puis du côté des hausses, il y en a quand même quelques-unes, pas très nombreuses, on en a 5 ou 6. Les plus fortes, Essilor qui gagne 1,08%, Publicis plus 1,1%, ST Micro plus 1%, et puis Sanofi et Worldline qui sont également bien orientés. Du côté des devises, il faut regarder cet Eurodoll qui est à 99,36, tandis que le pétrole, le Brent de la mer du Nord est à 91,57.
BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Allez, on continue à parler IMO en attendant de retrouver Nicolas Dose dans quelques minutes avec en plateau toujours Gaël Thomas et Marie Cœur de Roy. On était sur ces bureaux et il y a aussi des questions, Gaël, autour du foncier. En tout cas, les assises du foncier des territoires s'ouvrent demain avec pas mal de questions sur la table.
Oui, c'est ma petite minute pub, désolé. On organise avec le LIFTI
les
assises nationales
du foncier
et des territoires. Ben oui, c'est à Nancy. Il y a une dizaine de parcours où on se pose toutes les questions autour du foncier, avec le sujet central quand même qui est le zéro artificialisation net. J'ai toujours du mal à le dire, on dit ZAN, c'est mieux. Et toutes ces injonctions contradictoires qu'on a entre, d'un côté, il faut préserver le foncier, c'est une ressource qui n'est pas totalement inépuisable non plus, qui est peut-être un peu renouvelable, il faudrait y réfléchir, mais qui est une matière première importante en France, sur lequel on n'a plus envie de construire. On voit les maires délivrent les permis de construire au compte-gouttes. On voit bien qu'à chaque fois que vous avez le début d'un commencement de projet, vous avez à peu près une dizaine ou une centaine de recours. Enfin bref, ça devient chemin de croix.
Parce que les riverains, enfin je dirais, voilà, c'est not in my backyard, comme on dit.
Tout à fait.
En bon français dans le texte.
Tout à fait.
C'est-à-dire qu'on veut bien que tout le monde se loge, mais pas trop près de chez soi.
Après, il y a deux choses. Il y a les riverains et puis il y a effectivement les équipes municipales qui anticipent une opposition qui n'est même pas née. Et que déjà, non mais si, ça arrive très souvent quand même.
Sur les recours, il y a eu trois types de recours. Il y a eu les recours un petit peu mafieux, on va dire. Donc on est là pour vous prendre un petit bout de votre marge. Ça, je pense que ça a été plus ou moins un peu écarté. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quand même sanctionné en justice. Il y a les recours que se font quelquefois entre promoteurs, entre opérateurs immobiliers. On n'en parle pas trop, c'est un tout petit peu tabou, mais c'était pas mal dans le commerce, notamment. Maintenant, il n'y a plus de projet de commerce, tout va bien. Il y a les recours politiques, évidemment. Donc, l'opposition, et puis, alors je suis encore trop parisien, mais à la mairie de Paris, c'est le symbole...
Mais d'autant plus, effectivement, là où le foncier n'est pas extensible à merci, comme des grandes villes comme Paris, typiquement, les bagarres sont beaucoup plus...
Bon, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour loger les familles? Parce que la demande est très forte, et donc au bout d'un moment, il faut construire. On a un déficit de logements, donc je ne sais pas s'il faut construire 500 000 logements par an. Je ne sais pas quel est le niveau de déficit. Je crois qu'il est estimé autour de 350 000 à 400 000, rien qu'en Île-de-France, de logements manquants. Et puis, il faut loger aussi les entreprises, puisque je vous rappelle que théoriquement, on a un plan de réindustrialisation de la France, ou au moins de relocalisation des entreprises. Une usine, une plateforme logistique, une entreprise, ça consomme aussi peut-être
du foncier,
peut-être des bâtiments. Donc voilà, il y a tous ces sujets qui vont être débattus par des spécialistes, mais moi je considère que le foncier c'est l'affaire de tous à l'occasion de ces assises. Et puis, il faudrait savoir simplement si c'est une priorité pour le gouvernement. Au bout d'un moment, il faut être un tout petit peu logique. Je donne juste deux chiffres. Il y a le fonds Friche, qui marche très bien, mais qui est abondé à hauteur de 750 millions d'euros. Donc, l'idée, c'est que vous avez une friche industrielle, tertiaire, commerciale, et puis vous allez reconstruire dessus, puisque c'est déjà artificialisé. Ça, le gouvernement a dit que c'est une priorité. On met 750 millions sur la table. Le bouclier tarifaire juste pour les énergies, c'est 24 milliards. Voilà, ça vous donne juste...
Un ordre de priorité.
L'ordre de priorité.
Non mais après, ça ne veut pas dire qu'il faut déshabiller Paul pour habiller Jacques aussi, mais c'est vrai qu'effectivement, la question qu'on se pose assez régulièrement, je trouve, sur ce plateau qui n'est pas complètement injustifié, c'est bien d'avoir de l'électricité dans son logement et pas cher, mais encore faut-il avoir un logement, en fait.
Non mais il n'y a pas que le logement, visiblement.
Mais une structure, enfin ce que je veux dire, c'est qu'il faut du bâti à électrifier, enfin voilà, c'est ça qu'on essaye d'expliquer. Donc l'idée, encore une fois, et c'est là où je rejoins Gaël, c'est pas de dire tout ce qu'on donne là à l'un, faut le retirer pour le donner à l'autre, mais il faut essayer d'équilibrer les choses et de se rendre compte qu'en fait, tout ça est un cercle qui pourrait être vertueux, mais bon, ça, c'est compliqué à comprendre.
Oui, on en est l'immobilier est une rente, donc...
Ouais, pas que, mais bon.
Non, mais si, Cédric a raison, c'est comme ça qu'on nous l'a expliqué.
Bon, vous nous avez promis d'ausculter les SCPI.
Bah oui, parce que c'est toujours un bon baromètre de l'attractivité.
Parce que c'est quand même un produit qui a largement séduit bon nombre d'épargnants.
On nous vend l'immobilier au guichet de la banque comme étant la valeur refuge, comme étant une protection contre l'inflation, comme étant un placement, un bon père de famille. Bah, les gens le croient. Il n'y a pas de souci. La collecte, elle est en hausse. On a vu les enquêtes de Rocken Data. J'aime bien ce nom-là.
Oui, c'est chouette.
Mais c'est le meilleur SCPI, en fait.
Ouais.
Donc, près de 2,7 milliards d'euros collectés au deuxième trimestre sur les SCPI. Si on regarde sur le premier semestre, on est à plus de 5 milliards. Donc on a déjà fait quasiment les trois quarts de la collecte de 2021. Donc les gens ont mis leur épargne sur l'immobilier. Si on élargit avec les contrats et sociétés civiles en UC, ce qui est logé dans l'assurance vie, vous rajoutez 2,5 milliards d'euros. Si on rajoute un petit billet de 500 millions d'euros sur les OPCI grand public, au total, on a plus de 8 milliards d'euros qui a été fléché sur l'épargne immobilière réglementée hors foncière cotée. On parle pas des foncières cotées. Bah, tout ça, ça donne beaucoup d'acquisitions à venir. Ça donne près de 3 milliards d'acquisitions. La moitié en bureau, d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on va chercher ? Ben, on va chercher la performance, on va chercher la distribution. Le taux de distribution, il est à 4,21 à la fin du premier semestre. 4,45 si on ajoute la distribution exceptionnelle, la participation aux plus-values, etc. etc. Ben, il faut comparer après. Donc vous comparez par rapport au CAC, ça reste confortable. Hein. Ouais. Je crois que depuis le début de l'année, on est à moins 15.
Oui, bien sûr. Mais là, la question, c'est la pérennité de ces SCPI, parce que y compris chez les grands acteurs. Enfin, on discutait l'autre jour avec Frédéric Puisin chez Corum, qui, bien sûr, se réjouissait, mais disait aussi cette collecte, elle pose aussi des questions sur comment digérer finalement cette manne sans dégrader.
La rentabilité,
la sécurité,
Ah bah de toute façon, vous allez la dégrader, la rentabilité. Parce que si vous devez acheter aujourd'hui des immeubles neufs, prime, sécurisés, vous les payerez beaucoup plus que le taux de distribution moyen des SCPI. D'un autre côté, vous renforcez la qualité de votre portefeuille, donc sa liquidité future. Après, c'est juste des choix d'allocation. Et ensuite, il faut faire confiance aux gérants. Donc il y en a qui ont prouvé par les années passées. Alors je sais que les performances passées
ne pas des performances futures.
Tout à fait, mais après c'est la qualité du sponsor, la qualité du gérant, c'est des professionnels. Il y a des bons, il y a des moins bons, à vous de faire le choix. Après c'est pas non plus, ça reste un placement immobilier, c'est pas non plus la sécurité sociale, c'est pas le livret A.
Donc il y a ceux qui ont voulu voir dans les SCPI une forme de remplacement au fonds euro ont oublié le fait que c'était pas du fonds euro.
Tout à fait.
Après, on rappelle quand même que ça a quand même. Enfin, je pense que si la collecte elle est à un tel niveau aussi, c'est parce que sur l'achat en direct, c'est plus compliqué et que je pense que ça va continuer. Les tickets d'entrée sont quand même nettement plus faibles. Ça vous permet quand même de faire de l'immobilier et ça change rien. Effectivement, c'est là où je rejoins Gaël, c'est qu'effectivement les rendements qu'on a connus par le passé et ne serait-ce que compte tenu de l'inflation, on faisait le rapport avec les taux d'intérêt immobilier, c'est la même chose. Oui, ils vont nous paraître beaucoup plus faibles qu'ils ne l'ont été et pour autant, ils restent beaucoup plus confortables au regard de beaucoup d'autres. Donc il faut pas oublier ça. Ça reste quand même un placement. Bien sûr que c'est pas 100% sécur, mais enfin, pour le coup, la SCPI reste quand même un investissement immobilier assez sain encore aujourd'hui pour la plupart des SCPI.
Tout à fait. Et puis c'est un investissement de rendement. Vous avez là, pour le coup, vous avez un rendement qui est plutôt sécurisé, qui est plutôt pérenne, qui est plutôt long dans le temps. Donc voilà, quand vous avez une épargne dans votre allocation d'actifs, il faut avoir toujours une petite part d'immobilier. Si vous voulez qu'elle soit un peu liquide, les SCPI ou les foncières cotées, c'est un peu plus challenging
sur les foncières cotées. Oui, le seul problème des foncières cotées, enfin vous me direz les SCPI non plus, mais les foncières cotées, le seul problème c'est que dans un produit aimé des épargnants qu'est le PEA, on ne peut pas mettre de foncières cotées.
Non, on ne peut pas avoir
des questions fiscales, on rappelle,
puisque
elles ont le statistique SIC.
Elles redistribuent 85% de leurs résultats.
C'est déjà un truc fiscal et donc on ne peut pas cumuler.
Bon. Non, on ne peut pas avoir.
Ça n'empêche que ça veut dire qu'il va falloir que les SCPI aussi se réinventent un peu. Enfin, je veux dire, on en a vu beaucoup qui partaient en Allemagne, etc. On en parlait aussi. Et c'est vrai que là, de ce que vous nous disiez des villes préférées, ça veut dire que le bureau, il faut aller le chercher un peu partout, pas que dans notre QCA parisien.
Tout à fait. Elles s'internationalisent, elles se régionalisent aussi, parce qu'il n'y a pas que Paris, mais il y a aussi les métropoles régionales qui ont retrouvé une certaine dynamique, en tout cas une dynamique d'emploi depuis quelques années. Elles se diversifient en termes de catégories d'actifs, de niches d'actifs, notamment là on en voit se créer sur l'immobilier logistique et industriel, plutôt à raison, alors qu'elles sont naturellement beaucoup sur le bureau, c'est quasiment la moitié des SCPI de rendement, c'est du bureau, elles sont encore sur du commerce, elles sont actives sur du commerce. BNP vient de signer un super retail park qui avait été développé par la compagnie de Wolfsburg, donc ils ont encore de l'appétit pour ces classes d'actifs.
L'autre truc, c'est qu'elles se regroupent pour avoir une granularité de portefeuille et pour avoir beaucoup de moyens. Moi, je pense que les SCPI, ça reste un placement assez sûr quand même. C'est pas tout à fait comme le livret A, mais je pense que vous ne courez pas non plus énormément de risques. Et puis, vous n'avez pas la volatilité que peuvent avoir les foncières cotées. Vous voyez Unibail Rodamco qui fait le toboggan. Là, des fois, vous avez un peu des sueurs froides.
Merci beaucoup d'avoir été présent pour ce Club Immo. Marie Cœur de Roy, donc. On se retrouve demain, Marie.
À demain.
Avec plaisir. Et Gaël Thomas, Business Immo, qui nous accompagnait cette semaine. Merci, Gaël.
Merci beaucoup.
Bon retour. Le marché parisien, moins 0,68%, 5998 points pour le CAC. On baisse d'ailleurs un peu partout en Europe, moins 1,12% pour l'Eurostock 50, l'Eurodoll, 99,38.
Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Nicolas Dose, bonjour.
Bonjour.
La polémique du jour, comment faire contribuer les super profits? La mission Flash menée en septembre par un tandem de députés Renaissance LFI a rendu sa copie. Qu'est-ce qui se prépare?
Il se prépare un bras de fer d'enfer à l'occasion du budget, l'examen du budget, avec deux options. Il y a ceux qui veulent faire contribuer, faire payer les super profits avec un outil fiscal, avec une taxe, un outil fiscal.
Et là, on pour faire la une, quoi.
On vise les groupes énergétiques, principalement. On pourrait aussi penser au transport maritime, mais pour l'instant, on fout un peu la paix à CMA, CGM. Et puis, il y a ceux qui considèrent que la bonne solution, c'est d'aller dans la même logique que ce que les 27 ministres de l'énergie ont validé vendredi. C'est-à-dire de faire payer les super-profits, mais pas avec un outil fiscal. Et là, on vise principalement les compagnies énergétiques qui produisent de l'électricité avec autre chose que du gaz, donc ils produisent beaucoup moins cher. Ceux qui sont au nucléaire, au vent, à l'eau, au solaire, à la biomasse principalement. Alors il y a un truc qui semble quasi acquis, c'est que là, l'air du temps fait que oui, on va faire payer ces profits générés par l'inflation. C'est des profits qui sont tout simplement dus à l'inflation. Parce que quand vous voyez ce que dit Philippe Lane, le chef économiste de la BCE, qu'il faut y aller, qu'il faut le faire, et qu'hier, le patron de Total indique que oui, bah, il est parfaitement normal qu'un groupe comme le sien aide à protéger les pauvres. Parce qu'il explique, moi, au deuxième trimestre, je fais 18 milliards de livres de profit. Deux fois plus que d'habitude. Donc, il y a vraiment un quasi-consensus sur l'idée que, oui, il faut aller dans cette direction. Mais maintenant, la question est de savoir si on y va par la fiscalité ou par quelque chose de non fiscal.
Mais c'est-à-dire, comment fait-on payer sans taxe?
S'il n'y a aucun problème, c'est prévu dans les contrats, en fait. Il est prévu dans les contrats un reversement de la rente inframarginale. Ce qui s'est passé pendant des années en France, c'est que l'État a subventionné des producteurs d'énergie avec des énergies à l'époque qui coûtaient beaucoup trop cher, qui n'étaient donc pas rentables. Si vous voulez qu'ils existent, tous ceux qui existent aujourd'hui, il fallait les aider au début. Et donc on prévoit de les aider, de les aider, de les aider, mais il y a un moment, on arrive à un seuil de rentabilité, puis il y a un moment, on gagne de l'argent. Et il est prévu dans les contrats que passer le seuil de 90 euros le mégawattheure, on rentre dans la rente inframarginal et que ce qui dépasse 90 euros le mégawattheure, eh ben on vous a bien subventionné pendant des années, maintenant vous nous reversez tout ce qui est au-dessus de 90 euros le mégawattheure. Vous faites payer les entreprises d'énergie, mais ce n'est pas un outil fiscal. Et c'est à peu près la même logique qui se décide au niveau européen, qui a été validée, mais qui doit être entérinée par l'ensemble des États, en décidant le fameux plafond de revenus pour l'ensemble des producteurs d'énergie hors gaz, ceux que j'ai cités, nucléaire, vent, solaire, biomasse, hydroélectrique. Et là, vous faites payer sans passer par la fiscalité.
Et du coup, entre une taxe ou une contribution, enfin,
vous avez... Ah ben non, c'est très important, entre une taxe ou une contribution.
Quelle est la bonne solution?
Il est clair que pour LFI, qui faisait partie de la mission Flash, c'est la taxe. Ils veulent le titre, vous avez raison, ils veulent LFI obtient la taxation des super-profits. Alors le problème de la taxation, c'est que vous le savez, si vous décidez de taxer, vous ne pouvez pas taxer des entreprises en particulier, parce que ça ne passe pas devant le Conseil constitutionnel.
Le rasoir, il doit passer chez tout le monde.
Voilà, donc
il
faut taxer un secteur, ou alors taxer, passer un certain niveau de revenus. Voilà. Ensuite, il y a le risque d'annoncer une taxe temporaire, mais on sait ce que c'est qu'une taxe temporaire chez nous. C'est une taxe définitive. Vous savez, la CRDS en 1996 qui aurait dû disparaître trois ou quatre fois, qui est toujours là. Ou la taxe professionnelle qui avait soi-disant été supprimée, mais qui a été réincarnée, notamment en CVAE et en CFE, la contribution foncière des entreprises. Et puis après, je rappelle que la taxe, principe de l'outil fiscal, ne taxera que les profits réalisés sur le sol français. Tout le monde n'a que Total Énergie en tête. En 2021, manque de bol, ils étaient dans le rouge en France. Parce que principalement, ils y font de la distribution et du raffinage. Et c'est pas avec ça qu'ils gagnent de l'argent, c'est avec l'exploration-production. Et les profits de l'exploration-production, ils les payent là où ils ont extrait les hydrocarbures. Alors le combat de LFI, c'est de dire il faut faire un référendum d'initiative partagée. Ils sont conscients des risques constitutionnels. Du coup, ils disent, eh ben voilà, comme eux, ils veulent une taxe, et ils veulent pas simplement taxer Total Energy, Engie et CMA-CGM, ils veulent taxer. C'est un peu dans l'ADN quand même. Et donc ils disent, au-delà de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, toute entreprise qui aura des profits 25% au-dessus de la période d'avant Covid devra payer. Alors après, on n'a pas le montant de l'impôt. Ça voudrait dire effectivement, ben voilà, élargir très largement ceux qui seraient amenés à contribuer. Trois conclusions. Je suis pas certain qu'ajouter de la taxe dans un pays qui a le record du monde des prélèvements soit forcément une très bonne idée. Oui. Surtout quand il en existe une autre que je viens de vous citer, certes ciblée sur le sujet de l'énergie, qui est un sujet pas comme les autres. On a un outil beaucoup moins lourd que l'on peut utiliser et qui contractuellement quand même est d'ores et déjà prévu. Même si, soit dit en passant, certains groupes d'énergie, après avoir pris des subventions pendant des années, essayent de réviser les contrats en urgence pour éviter de se retrouver rattrapés par le reversement de la rente inframarginale. Après, taxer toutes les entreprises au-delà d'un certain montant de chiffre d'affaires qui ferait plus de 25% de profit. Je sais pas, prenez une belle biotech qui est à 1 million d'euros de chiffre d'affaires et qui vous sort le remède contre Alzheimer. Ouais, ses profits font 300%. Oui, mais enfin, si vous vous amusez à taxer comme ça, il n'y a plus de recherche. Donc là, il y a un moment, ça devient contre-productif. Et puis, c'est bien joli d'imaginer qu'on va faire payer, je dis bien faire payer, parce que c'est taxation ou contribution, faire payer les super-profits. Après, il ne faut pas rêver. Ce n'est pas les milliards des super-profits qui vont couvrir les montagnes de milliards des boucliers tarifaires. Donc, le signal politique, c'est important, mais ça ne sera qu'un signal politique. Un petit peu comme l'ISF en Espagne sur 2 ans, qui va rapporter 3 milliards en 2 ans. Ce n'est pas une solution budgétaire, c'est un signal politique.
Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci Nicolas. Tout de suite, on jette un œil sur les marchés.
BFM Business, c'est aussi sur Internet. Sur bfmbusiness.com, suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business, toutes vos émissions en live ou en replay.
Et c'est probablement autour des 6000 points que les choses sont en train de s'organiser à la Bourse de Paris. 5999 points. On baisse de 0,66%, baisse que l'on observe également ailleurs en Europe, moins 0,9%. Mais c'est vrai qu'il y a encore quelques minutes, l'indice européen perdait lui aussi un petit peu plus de terrain que ça n'est le cas pour le moment. Jetons également un petit coup d'œil du côté des principaux arbitrages en cours à Paris et notamment sur les baisses du jour qui sont bien évidemment les plus nombreuses, avec des baisses assez marquées, notamment sur Unibail qu'on évoquait tout à l'heure avec Gaël Thomas, 42,53 en baisse de 5,17%, et sinon on a une dizaine de valeurs en baisse de plus de 2%, dont Michelin, Stellantis, Crédit Agricole, Renault, BNP Paribas ou encore Bouygues pour ne citer qu'elles. Quelques hausses tout de même, elles ne sont pas très nombreuses, mais on imagine qu'avec ce jeu autour des 6000 points on va en trouver un petit peu plus. On en a tout juste une dizaine en ce moment sur le CAC. Les plus fortes, Publicis, plus 1,58 à 52,82, et Essilor plus 1,4 à 154,25, ou encore ST Micro qui progresse d'1,35% à 34,94. Après, ce sont des baisses qui sont inférieures à 1%. Du côté des devises, l'eurodoll s'échange contre 99,42, et puis le pétrole, le Brent, à 91,55.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on accueille Claude Calmont, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour Calmont Partners. Les banques et les fonds, plus frileux qu'avant. Est-ce que les conditions d'accès au capital ont changé pour les entreprises ?
Oui, tout à fait. Ce qu'on est en train de voir côté particulier s'applique aussi aux entreprises. Il y a un accès au capital qui est beaucoup plus compliqué, que ce soit pour les structures d'investissement comme pour les startups, que l'on accompagne d'ailleurs sur Calmont Partners Financial Services. On est dans un schéma de marché où le rôle d'un intermédiaire commence à vraiment se faire sentir. On arrive à apporter beaucoup de valeur ajoutée là-dessus.
Pourquoi est-ce qu'il y a ce ralentissement sur les levées de fonds ?
Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il faut mettre les choses en perspective. On parle de ralentissement au niveau international, États-Unis, Chine, Allemagne, Angleterre, qui sont nos gros challengers sur les levées de fonds en Europe. La France s'en sort pas si mal que ça, puisqu'on est même d'ailleurs en progression par rapport à l'année dernière. Alors après, il faut regarder un petit peu plus dans le détail. On voit qu'il y a beaucoup moins de levées de fonds sur des plus petits tickets, des plus petites tailles d'entreprises. En revanche, les plus grosses, sur ce qu'on appelle les séries C et D, donc assez tardif dans la vie de l'entreprise et notamment en termes de volume, là sont encore bien présentes sur le marché.
Donc ce sont les start-up finalement qui payent le plus lourd tribut.
Tout à fait.
Ça bloque un peu les choses ?
Ça bloque parce qu'il y a certains business models où vous avez besoin d'apports de cash régulièrement pour aller faire de l'acquisition, pour aller faire de la communication, l'acquisition de clients client, sur tous les modèles, ce qu'on appelle B2C, donc qui va vers le consommateur final. Ce sont des business models qui consomment énormément de cash. Quand vous n'en avez plus, que la trésorerie commence à s'assécher, forcément, vous ne pouvez plus mettre en place le même type de campagne d'acquisition et ça peut devenir tout à fait problématique.
Ouais, du coup, il y a des conséquences pour les chefs d'entreprise
Alors, pour l'instant,
pour les investisseurs,
les conséquences ne sont pas trop graves côté chef d'entreprise parce qu'on arrive encore à trouver ces financements entre de la dette bancaire et de l'apport de cash de business angel pour les plus petits tickets et de fonds d'investissement pour les plus importants. Mais les demandes côté prêteur sont de plus en plus dures et les critères sont de plus en plus nombreux.
Du coup, est-ce que ce phénomène que vous décrivez, Claude Calmont, il a un impact sur la valorisation des boîtes? Est-ce que c'est général? Est-ce qu'il y a certains secteurs qui sont plus touchés? Vous voyez les choses?
Effectivement, on a vu des nouveaux tours de table, ce qu'on appelle les nouvelles levées de fonds pour certaines entreprises, à des valorisations inférieures à ce qu'elles avaient à leur dernière levée de fonds. Alors, ça veut dire deux choses. C'est qu'on a connu, on est encore dedans, mais on a connu une vraie bulle en termes de valorisation des sociétés. On parle beaucoup de la tech en ce moment. L'argent était quasiment gratuit et à flot sur beaucoup de marchés. Aujourd'hui, on revient peut-être à ce qu'on pourrait appeler une situation un peu plus naturelle, avec des valorisations qui correspondent un peu plus à la santé économique de l'entreprise. Puisqu'il faut quand même rappeler que le concept d'une entreprise, c'est de produire quelque chose, le vendre à un autre prix et de gagner de l'argent là-dessus.
Mais ça veut dire que les tours de table que vous évoquez sont plus difficiles à monter ?
Oui, tout à fait. On le voit dans les critères, les cases à cocher côté investisseurs qui sont beaucoup plus regardants sur notamment les tailles de chiffre d'affaires, la rentabilité. Est-ce que la levée de fonds va permettre d'être rentable ou est-ce qu'il y a un objectif de rentabilité ?
Enfin, ces questions, ils devaient déjà se les poser avant, non ? C'est plus compliqué aujourd'hui ?
Il faut croire que quand on a besoin de faire un petit peu plus attention à son portefeuille de participation, on revient aux fondamentaux. Et les fondamentaux d'une entreprise, c'est à un moment de pouvoir créer de la valeur pour ses investisseurs.
Du coup, elle demande de nouvelles, pas garanties, mais de nouvelles certitudes aux entreprises
Ce qui a été vu, c'est qu'il y a beaucoup de gros fonds de VC qui ont écrit à tout leur portefeuille de participation en leur disant « Ne vous attendez pas à avoir du nouveau cash dans les 6, 12, 18 prochains mois. On veut voir maintenant la solidité de votre
business model.
C'est à vous de prouver.
À vous de faire le taf.
Comme vous l'avez très bien dit, c'est ce qui aurait dû être fait dès les premiers jours de la levée de fonds.
Mais ça veut dire, en fait, qu'on revient à une situation qui serait plus logique, plus attendue, plus naturelle. Et donc, c'est plutôt une bonne chose.
Je, d'un point de vue...
Parce à que tout malheur, une chose est bonne, quoi.
Voilà, d'un point de vue investisseur, vous demandez simplement plus de garanties et donc mettre un peu plus au chaud votre capital, qui est déjà très à risque dans une entreprise non cotée. On revient à une situation où des sociétés qui ont été synthétiquement nourries avec du cash gratuit à des moments où elles n'auraient pas dû en avoir sont encore sur le marché. Donc une sélection naturelle va s'opérer et ça va permettre aux sociétés les plus solides de justement battre la concurrence.
Donc on imagine que les entrepreneurs, aujourd'hui, ils sont sous pression.
Ils sont sous pression.
Faut pas, surtout faut pas se bourrer dans la gestion, quoi.
Voilà, surtout ceux qui ont un petit peu moins regardé la gestion de trésorerie sur les quelques années. Le PGE a pas aidé puisqu'on arrive aujourd'hui dans des situations de remboursement. Donc, si vous n'avez pas récupéré votre niveau d'avant crise Covid, ça commence à devenir un petit peu compliqué.
Merci beaucoup pour ce panorama, Claude Calmont, donc pour Calmont Partners. À très bientôt.
Merci, à bientôt.
Le marché parisien, lui, est en repli, mais on a l'impression qu'on organise vraiment les marchés autour de ce seuil des 6000 points sur le CAC. Moins 0,67, 5999 points pour l'indice CAC. N'oubliez pas non plus les replays qui vous attendent et qui vous permettent de nous retrouver à votre convenance, soit sur notre site, soit sur vos plateformes préférées.